Ah, écoute un peu, c'est à propos là, de l'Europe, tu sais, l'Europe agricole à Bruxelles. Écoute, la séance reprit à 20h. Et à minuit, les délégués de l'Europe agricole furent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée.
Mais c'est pas possible.
Ah, écoute, je t'assure, écoute.
CO2, mon amour.
Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée.
Denis Chessoux.
Non, je te crois pas.
Oh, bah écoute, lis-le toi-même.
Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une collation bien méritée. Écoute, vraiment, tu exagères. Qu'est-ce que tu lis?
Eh ben c'est pas mal ça pour débuter, donc un petit extrait de Domicile conjugal de Truffaut. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui à la technique Sandrine Malon, Florent Layani et Stéphane Beaufils, et assisté de Camille Blanès, c'est Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Et qui débute, vous le savez, par une petite humeur. Bah oui, alors le samedi 16 mars. Ah bah là, je suis désolé, je peux pas t'accompagner là, mon gars, pour choisir ton SUV 4 portes vitrées fumées avec allume-cigare connecté en promo. Premier loyer, 395€. Non, je suis désolé, parce qu'aujourd'hui, j'ai climat. Donc je marche pour le climat. Marcher. Ah, tu connais pas. Alors, c'est un truc formidable. C'est un moyen de mobilité incroyable qui te fait avancer sur deux jambes. Mais alors, c'est dingue le progrès. Une chose est sûre, les Français, nos jeunes, ont repris goût à l'exercice physique. Ils descendent dans la rue pour un oui, pour un rond, point, pour le climat. Après tout, donc les paroles même de notre guerrière marseillaise n'incitent pas exactement à rester en pantoufles. Alors un petit bémol quand même, parce que empiler des palettes et brûler du pneu, c'est un peu moyen peut-être pour le réchauffement climatique et pour la santé. Bon, reste à espérer que ces mouvements et marches du siècle ouvrent sur un peu plus de solidarité, de clairvoyance, de lien entre le social et l'environnemental et sur l'état même du vaisseau cabossé qui nous embarque, car les échéances climatiques commencent à cogner furieusement à notre porte locale et planétaire. Et nos jeunes, à leur échelle de vie de 16 ans, eh bien, voient déjà les changements. Alors les solutions, ils existent, mais il faut tout revisiter. Et là, ça commence franchement à se gâter. Donc il faut un peu écouter nos gamins, hein, qui ne sont pas du tout amortis sur le sujet. Bah oui, mais ils sont jeunes, ça leur passera. Bah non. Ils en ont marre de voir les pires excuses des adultes pour ne rien faire. Et je vous renvoie sur, vous tapez hashtag la pire excuse, et là vous nous retrouverez avec Palvo Servigne et plein d'autres personnes. Il s'est trouvé quand même 1 200 000 personnes pour donner leur avis sur le changement d'heure. Hein. Donc le peuple peut s'attaquer quand même au vrai problème maintenant. 2 400 000 signatures pour l'affaire du siècle, qui, bon, au final, au tribunal administratif, ne débouchera quand même pas avant 1 an et demi à 2 ans, mais qui a une portée symbolique extrêmement forte. Et même relié par un écran bouffeur de matières premières, eh ben les jeunes nous disent qu'une seule chose, on veut vivre dans une maison qui tient la route, dans un bel oïkos. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, donc, au salon, ça sent un peu la vache, un peu la poule et le cochon. C'est normal parce que c'était le salon de l'agriculture, donc il n'y a pas tellement longtemps. Le cochon, lui, ne peut plus nous écouter. Alors, c'est pas à cause de ses écouteurs hein, qui ne fonctionnent pas. Mais parce que, comme tous les cochons qui viennent au salon, c'est des cochons de réforme. Et donc après, bah, quick, ils sont maintenant à l'état de jambon, de pâté, de boudin et de saucisson. Eh oui, donc on laisse la grille et nous, on va garder la culture. Ou au salon du Livre de Paris. Ah mais non, monsieur Chessoux, c'est ringard, c'est trop long à prononcer, il faut dire Livre Paris. Donc on est dans un lieu de défense de la langue française, mais exit les articles à la poubelle. Livre Paris, si vous voulez, communicants de Gédi ont dit « Mon gros, mon petit loup, ça sonne, ça claque, c'est une marque, donc c'est vachement mieux ». Reste à savoir si les livres de nos invités ont mérité l'abattage d'une ou deux forêts quand même pour les fabriquer. Donc bienvenue à vous tous au Salon du Livre de Paris, auditeurs de France Inter, à la feuille verte.
C'est peut-être pour demain le grand feu d'artifice, le bouquet final. Un spectacle enfin digne de l'univers.
CO2, mon amour.
Inutile de retenir vos places, vous serez tous en première loge.
Sur France Inter.
Demain, la fin du monde. Oubliez vos fins de mois. Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras empoté.
Denis Chessoux.
Ah bah super, donc on va voir aujourd'hui donc une lichette d'effondrement, une autre fin du monde possible avec Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Du bio, on en aura oui, mais lequel avec Frédéric Danhué, et puis un troisième ouvrage avec vous, Élise Rousseau, donc une philosophie des oiseaux. On va peut-être débuter, cher Frédéric, parce que donc Frédéric Danhué est ingénieur en environnement, mais intervient depuis 7-8 ans dans cette merveilleuse émission, dans l'actualité. Donc là aussi, je reviens à la page mobilité. L'Amérique de Trump n'est pas exactement « great again », on le savait. Elle vole même un peu au ras du plancher, clouée au sol par les défaillances d'un simple pilote automatique qui prend la main sur l'humain. Et puis, au rayon maritime, on a quand même 2000 voitures sous acide qui viennent de trouver quand même un parking par 4200 mètres de fond. Hein, donc, le Grand America, qui était un bateau presque poubelle, qui transportait des poubelles et qui a toujours eu l'habitude de vider ses poubelles à la mer. Donc, on va saluer la famille Grimaldi, habituée à faire circuler ce type de navire qui vient de sombrer dans l'Atlantique et qui va peut-être souiller un petit peu nos côtes. America Grande, difficile d'inventer mieux quand même comme nom, hein, Frédéric Denré.
Oui, oui, enfin, vous exagérez un tantinet.
Mais toujours,
mais
toujours.
Oui, c'était pas tout à fait un bateau poubelle et de toute façon qu'il ait été...
J'ai dit presque poubelle.
Oui, c'est vrai. Qu'il ait été poubelle ou pas, de toute façon, c'est une fortune de mer. On redécouvre à l'occasion de ce naufrage que oui, un bateau peut couler à l'occasion d'une tempête et que dès lors qu'il y a un incendie sur un bateau, en moins de 10 minutes, tout est plié. Puis effectivement, il y aura une petite marée noire, peut-être, hein, 2000 tonnes de pétrole sont échappées en mer. Je rappelle que l'Erika, c'était 20 000 tonnes et la Mokokadi, 130 000 tonnes. Donc il faut raison garder, même si ça fait jamais plaisir.
Non, du côté de La Rochelle, ils vont avoir quelques petites boulettes qui vont arriver. Alors, en ce moment, mais ça a toujours été, mais la peur est un truc qui est une valeur sûre, la peur. Alors, l'effondrement, on en a déjà pas mal parlé. Si vous voulez, vous aviez un gars, j'ai pas pu l'inviter, c'était Saint-Augustin qui donc avait chroniqué la chute de Rome. Vous avez toujours des millénaristes sur leurs collines. Ça, on était dans l'Europe de l'an 1000 avec des peurs quand même assez irrationnelles, des prêcheurs d'apocalypse, c'était leur truc. Plus dans notre époque contemporaine, Jean-Pierre Dupuis, un homme assez formidable, pas très connu vraiment du grand public en France, qui nous a donc éclairé avec son catastrophisme éclairé. Jared Diamond, ça c'était en 2005, géographe, qui nous a rappelé dans son ouvrage que toutes civilisations sont mortelles et portent en elles leur destruction possible, l'île de Pâques et autres. On a eu aussi Yves Pacadet qui avait sorti un livre il y a une quinzaine d'années qui s'appelait « Quand l'humanité disparaîtra, bon débarras ». Évidemment, ça fait un peu de buzz, mais ça avait très bien marché. Puis quand même, on lui avait dit « Il ne faut pas désespérer complètement les gens ». Il avait sorti après un ouvrage qui s'appelait donc « Issue de secours ». Et donc là, avec Pablo Servigne et donc Gauthier Chapelle, qui avait déjà réussi, je dirais, un très bon livre avant celui-là, là maintenant nous sommes à « Une autre fin du monde est possible ». Donc c'est au seuil dans la collection Anthropocène. J'ai envie de vous demander, c'est un nouveau métier, coach en effondrement, cher Pablo Servigne?
J'aimerais bien, mais pour l'instant, on est juste écrivain et on rencontre différents publics pour essayer de porter la question des catastrophes et des possibles futures catastrophes auprès du grand public.
Alors ça, c'est votre truc, parce qu'en même temps, on peut avoir, vous le savez, donc l'écologie de solution. Donc ça, c'est notre ami Cyril Dion, par exemple, avec Demain. Donc ça donne évidemment beaucoup d'espoir. On a le côté, on va envoyer du beau, vu d'hélicoptère, vu d'avion, façon Yann Arthus-Bertrand. Bon, c'est vrai que c'est beau, mais ça n'a pas donné forcément des résultats. On voit bien qu'on bloque. La semaine dernière, on avait Sébastien Boller, donc qui nous parlait aussi des blocages que l'on avait cognitifs. Donc pour vous, c'est une... Vous êtes sûr de votre cours? Disons qu'il va y avoir effondrement. Ça va se passer comment? Quand on parle d'effondrement, quand même, faisons une petite définition, s'il vous plaît.
Mais il y a plusieurs définitions. La définition des archéologues, a posteriori, vu du futur, un effondrement, c'est une diminution brutale d'une population à un endroit donné. Mais ça, c'est un peu flou. Et nous, on a utilisé la définition d'Yves Cochet, qui est quand le...
C'est un type drôle, d'ailleurs.
Comment?
Non, allez-y, continuez.
Qui est le... Ben quand dans une société, les services de base,
c'est-à-dire
le transport, la nourriture, etc., ne sont plus fournis à l'ensemble de la population par des services encadrés par la loi. Et on a trouvé cette définition beaucoup plus pratique et, disons, qui touchait à notre vie, au présent. Et c'est pour ça qu'on a aussi intitulé le livre précédent, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Parce que finalement, on a fait un tour d'horizon de tout ce que les différentes disciplines scientifiques disaient sur les catastrophes et les possibles effondrements, que ce soit la biodiversité, le climat, l'énergie, la politique, l'économie, la finance, etc. Et en fait, ce tour d'horizon montre qu'il y a des effondrements possibles et que c'est vraiment imminent. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Dans l'écologie des années 70 ou 80, c'est les générations futures. Vous savez, les enfants nous accuseront. Non, les enfants, ils sont là, ils sont dans la rue, ils accusent Ils font des pétitions pour attaquer l'État en justice. C'est nous, c'est les générations présentes.
Alors Gauthier Chapelle, ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est que lorsqu'on était donc il y a 25 ans donc à Rio en 1992, vous aviez 1700 donc scientifiques qui ont vraiment tiré le signal d'alarme. Puis immédiatement en face, vous aviez eu 2500 scientifiques qui ont dit ouais, mais attention là, là vous allez entraver la croissance, vous allez entraver l'innovation. Parfait. L'année dernière, là, on a plus de 15 000 scientifiques qui sont à peu près tous d'accord sur le même constat. Je ne dis pas que ça bouge plus, mais il n'y a plus d'opposition. C'est-à-dire que maintenant, lorsque les uns les autres, vous êtes en conférence ou bien lorsque l'on parle de ces sujets, il n'y a pas des gens qui vont vous dire « Ah ben non, vous avez peut-être tort ». Ça a bougé, en tout cas.
Oui, en effet. En tout cas, dans la communauté scientifique, je dirais qu'il n'y a quasiment plus de déni là-dessus. Effectivement, quand ces 15 000 ont signé, il n'y a pas eu de contre-pétition en face, on va dire. Et puis non seulement ça, mais un autre signe très clair, c'est qu'avant, les scientifiques avaient tendance à se poser juste en dispensateur d'un savoir extérieur et puis ils n'en disaient pas plus. Maintenant, il y en a de plus en plus qui se lancent dans l'arène. Je pense à Aurélien Barraud chez vous, il n'y a pas longtemps, et qui mettent aussi leur avis de citoyen et leur trip et leurs émotions, et donc qui nous amènent quand même sur d'autres terrains, tout en étant, effectivement, tout en s'appuyant sur ce qu'ils savent aussi en tant que scientifiques. Mais je dirais que on sort de l'information à la troisième personne et on parle en jeu dans la communauté scientifique de plus en plus.
C'est-à-dire que vous partez, vous, Gauthier Chapelle, l'un et l'autre, Pablo Servigne, sur le postulat, de toute façon, ça va se casser la gueule, quoi. Donc, en fait, ce sera pas forcément linéaire, ça peut être brutal, ça peut être lent, ça va être des suites de chaos, on est bien d'accord, c'est pas, entre guillemets, la fin du monde, loin de là, dans 14 jours et demi. Mais ce que vous avez voulu faire, c'est de dire, la cata va venir, comment on va essayer de l'amortir?
Oui, il y a deux choses. Et la première, c'est qu'on ne peut pas avoir de certitude absolue. La science ne peut pas montrer avec certitude qu'il y aura un effondrement. Par contre, elle ne peut pas montrer non plus avec certitude qu'il n'y en aura pas. Donc on est dans une incertitude radicale. Ok?
J'aime bien ça.
Oui, mais c'est l'incertitude radicale, qui nous met en mouvement. Oui. Si on était sûr,
on ne bougerait pas.
Oui. Ouais. Et alors là où il y a l'intuition, où on peut aller vers... On a considéré, comme Jean-Pierre Dupuy justement, que la catastrophe était certaine. C'est sa pirouette philosophique. Comme on la considère comme certaine, c'est un truc. Mmh. Alors on aura une chance de se mettre en mouvement et de l'éviter. Et c'est le paradoxe, que si on la considère certaine, on pourra l'éviter. Mais si on réfléchit bien, là il faut tout changer. La politique, l'économie, il faut tout revoir. Ce que disent les jeunes hier dans la rue, il faut tout revoir. Si on revoit tout maintenant et radicalement, notre monde s'effondre, comme le répète souvent Gauthier, c'est la fin d'un monde. Ça, c'est si on réussit une transition. Et si on foire la transition...
Ça s'écroule quand même.
Ça s'écroule et en beaucoup plus grave. C'est-à-dire que ça peut même aller jusqu'à la fin de l'espèce humaine ou de la majorité des espèces sur Terre.
Quand on voit la moyenne de mémoire, de durée de vie d'une espèce sur Terre, c'est, je sais pas, entre 1 million et 10 millions d'années. Alors, il y en a beaucoup plus, hein, vous. Prenez les blattes, par exemple. C'est des trucs qui ont dépassé le 100 millions d'années, la blatte, hein, que vous avez chez vous. Bon, voilà. Donc, il y en a qui sont très, très résistantes. Les tortues aussi. Frédéric Doré.
Mais il y a les crocodiles aussi. Hein.
Il faut
toujours penser aux crocodiles et aux requins qui sont là depuis longtemps.
100 millions, 150.
Moi, elle met mal à l'aise cette notion d'effondrement, de par ma formation scientifique d'ingénieur écologue, où s'il y a une chose qu'on apprend, c'est que l'incertitude règne en permanence, c'est qu'on ne peut rien modéliser. Moi, j'ai travaillé dans un laboratoire d'écologie numérique, sur l'introduction de la théorie du chaos pour essayer de modéliser des explosions de plancton en mer du Nord. En fait, ça n'est jamais qu'un calcul statistique affiné, et in fine, on aboutit à pas grand-chose. On ne peut jamais prévoir, même quand on est au bord de quelque chose, de quel côté la bille va tomber. Donc cette notion d'effondrement, pour moi, elle est... Scientifiquement, je suis mal à l'aise avec. Et puis, philosophiquement, elle donne l'idée qu'on connaît déjà le futur et qu'on sait par quel chemin on va y arriver. Et que du coup, la société, finalement, est assez statique. C'est-à-dire que de toute façon, on ne changera pas, on n'évoluera pas, la société ne va pas changer. De la même façon, quand on parle d'extinction des espèces, je suis aussi très mal à l'aise. Parce que l'extinction, ça veut dire qu'on sait déjà qu'il n'y aura plus rien. Il y a une érosion des espèces. Mais de là à prévoir qu'il n'y aura plus rien...
Non, mais ça chute beaucoup.
Ça chute beaucoup.
On parle de sixième extinction des espèces. Oui. La grande différence, c'est que les cinq autres, il n'y avait pas l'être humain. Et que là, l'être humain...
Sauf que le terme d'extinction n'est intervenu, n'a pu être employé qu'à posteriori. Qu'est-ce qui peut permettre de dire... Je vous donne juste un exemple. En 2003, après la grande sécheresse du mois d'août,
une forêt en Normandie que gérait un copain de promo, où il n'y avait plus rien, plus un être, plus rien du tout. 5 ans après, tout a repoussé. Pourquoi ? Parce que, eh ben, on ne connaissait pas le patrimoine génétique de ces arbres qui, a priori, étaient tous identiques. Et c'est ce que nous montre la nature, c'est que même si la situation des insectes, des oiseaux est catastrophique, bah, il y a encore l'espoir qui repose sur l'incertitude scientifique.
Pablo Servigneur, donc par rapport
à... Bien sûr, tout à fait d'accord. Et nous, en tant que biologistes...
On ne le sent pas assez dans votre livre.
Non, mais, oui, mais tout le travail de la collapsologie, justement, c'est de décrire ces effondrements, parce qu'il y en a, hein, les populations d'oiseaux, de vertébrés...
Alors, ce sont bien les populations, pas les espèces, c'est bien de le dire.
Enfin, il y a des espèces qui disparaissent, mais les plus graves sont les populations. Ouais. Et d'envisager des possibles... Et si on n'est pas certain, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Quand vous prenez une maison, vous vous assurez qu'on rencontre un incendie. Mmh. Ça ne veut pas dire que vous êtes catastrophiste, prophète de malheur. Mmh. Ça veut dire que vous préparez, voilà, c'est assez rationnel. Et donc ce que dit la science, et nous en tant que biologistes, quand on parle d'effondrement, on parle forcément de résilience, de renaissance, de cycle adaptatif, exactement comme vous. On a fait les mêmes études. Et on s'est rendu compte que dans le grand public, parler d'effondrement, ça déployait un autre imaginaire. Et donc, on est parti en mode pédagogique pour justement dire que parfois ça renaît et parfois pas. Dans le Sahara, par contre, ça a passé d'une forêt foisonnante à un désert. Ça pourra revenir dans quelques millions d'années peut-être. En attendant, c'est pas revenu. Et ce qui compte, c'est la possibilité d'extinction aussi de notre espèce.
Ce que vous avez dit, ce que vous dites, Pablo Servigne, est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que... on sait depuis longtemps que l'on manque de récits du futur et que c'est peut-être une manière d'écrire quelque chose qui n'a pas l'air joyeux au départ. C'est qu'il y a une espèce de tunnel donc il va falloir passer pour admettre donc les différentes crises et différents effondrements, reprenons donc ce terme-là, pour pouvoir effectivement construire derrière. Et il y a un homme qui s'appelle Pierre Radan, et moi, un type formidable, et qui était le président de l'ADEME à une époque, et qui disait il y a 15 ans à des jeunes, voilà quelle sera ma vie dans mon siècle. Autrement dit, il expliquait comment on allait pouvoir se déplacer, pouvoir s'alimenter, comment pouvoir habiter et aussi avoir du plaisir. Voilà, mais parce qu'il écrivait quelque chose, et peut-être que c'est l'occasion de réécrire aussi complètement autre chose et de changer d'imaginaire. Alors après, comment on fait ? J'ai pas la solution. Hein.
Non, mais c'est très juste. C'est-à-dire que, si tu veux réagir, enfin moi j'ai juste un petit truc à dire, c'est que le risque, l'écueil avec le mot effondrement, c'est que ça écrase les futurs, ça écrase l'avenir et l'horizon.
Pas très cool. Hein.
Et donc on a vraiment un effort à faire, pas seulement dans la raison, la compréhension, les chiffres et tout, mais vraiment dans un effort d'imaginaire, en plus des émotions, je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui, mais pour réouvrir des horizons possibles. Et il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont déjà dans... C'est la génération Fukushima ou Tchernobyl, ils sont déjà là-dedans. Et ils inventent, et quand on leur dit effondrement...
Ah, je suis né sous Fukushima. Ah oui, toi, c'est Tchernobyl. Ah, super.
Il y a une petite différence de génération, mais ils sont nés là-dedans. Quand on leur dit il y a un effondrement, il y en a qui disent, ah, un effondrement quoi ? Nos sociétés capitalistes, industrielles ? Mais c'est génial, on va réinventer des choses. Et ça peut réouvrir des possibles.
Il nous faut un peu de musique après ça, hein ?
Oui,
ça va être nécessaire.
Oh,
Julie Fields sur France Inter en direct de Salon Paris Livre, je ne sais plus dans quel endroit on fait. Et en tout cas, nous avons des auteurs qui sont autour de cette table. Bienvenue dans Le Meilleur des Mondes avec donc Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Une autre fin du monde est possible avec Frédéric Noé. On y reviendra dans quelques instants avec Acheter Bio. Point d'interrogation. Et alors, avec vous, Élise Rousseau, faisons-nous aussi un petit peu plaisir, prenons un petit peu d'air, on va s'envoler avec une petite philosophie des oiseaux aux éditions donc de La Martinière. Alors, Élise Rousseau, donc avec Philippe Dubois, je tiens quand même à rappeler que vous êtes des ornithologues, vous êtes à la LPO, vous êtes diplômé aussi en philosophie et en littérature, et donc vous avez souhaité donc mêler la philosophie et les oiseaux. Alors c'est vrai que ces oiseaux, ils sont des conteurs, hein, ils nous amènent aussi pas mal de légendes, hein, que ce soit donc la conférence des oiseaux avec ce recueil de poèmes médiévaux persans, que ce soit donc avec Selma Lagerlöf lorsque l'on chevauche une noire. On est un petit garçon, ça c'est vachement bien aussi. Et puis si on regarde la déesse grecque de la sagesse, puisque nous sommes pas très loin de la nuit de la chouette, hein, donc c'est ça, on est en plein dedans, donc la déesse Athéna est bien là, bien présente. Quelles leçons ont-ils à nous délivrer au XXIe siècle, ces oiseaux, Élise Rousseau ?
C'est vrai que dans un monde en fait qui est quand même anxiogène et qui va pas très bien, moi j'ai tendance à penser que c'est où la beauté, l'art, les livres qui peuvent nous sauver au quotidien, et bien sûr l'observation de la nature, et dans cette nature les oiseaux, qui bien sûr en fait par leur beauté, leur comportement, peuvent nous donner en fait des petites leçons de sagesse et des pistes de réflexion sur nos propres vies, peuvent nous permettre de prendre aussi un petit peu de recul en tant qu'être humain par rapport à cette façon effectivement dont on détruit notre environnement quand on voit que les animaux, eux, vivent en harmonie parfaite en [S2] Oui. [S1] Fait avec cette nature. Et donc en fait l'idée de ce livre, c'est justement de par nos observations des oiseaux qui durent depuis de nombreuses années, hein, puisqu'on est vraiment passionnés d'oiseaux et de nature, d'arriver à faire le lien par rapport aux hommes à ce que ces oiseaux pourraient nous apprendre. Et finalement, on a découvert qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses.
Alors on remercie donc les 10 000 oiseaux, enfin des différentes familles, enfin d'oiseaux espèces donc qui existent donc aujourd'hui donc dans le monde. On en a quand même 25%. Ils ont pas très très en forme. Hein, faut leur faire un peu d'oxygène. On en a 1/8. Hop, c'est fini. Les insectes aussi qui vont derrière. Tout ceci est donc très lié. Et on le voit parfaitement aussi dans le livre de Pablo et de Gauthier. C'est-à-dire qu'on a un effet complètement systémique, hein, qui est là. Alors justement, là vous faites un petit lien, on a envie d'en savoir plus. Accepter la fragilité en soi ou l'éclipse du canard. Ouais, racontez.
En fait, les oiseaux, pour conserver leur plumage au top, ont besoin de muer en fait, faire des mues dans l'année. Et le canard notamment, on dit qu'il se met en éclipse parce que pendant la période de sa mue, en fait, il ne peut plus voler. Et en fait, le lien qu'on a voulu faire avec les hommes, c'est que les animaux, les oiseaux, quand ils ont ce problème de la mue dans leur vie, ils se mettent un peu entre parenthèses, ils sont un peu fragiles, donc ils se mettent un petit peu à l'abri, ils attendent un peu que ça passe. Alors que nous, êtres humains, on est tout le temps dans la performance. Faut toujours, si on a un deuil, si on a un chagrin d'amour, si on perd un emploi, eh ben faut tout de suite être performant dès le lendemain. On nous laisse pas le droit en fait au retrait, au repris, à prendre un peu de temps en fait pour aller mieux, à prendre le temps en fait de faire cette mue, une mue qui est nécessaire en fait pour passer du passé au présent et au futur. Et en fait, il nous manque finalement dans nos vies ce temps de la mue. Et les oiseaux, bien sûr, eux, ce temps de la mue, l'ont en permanence, puisque c'est une nécessité vitale pour eux. Mais la question, c'est est-ce que c'est pas aussi une nécessité vitale pour nous, de temps en temps, de nous accorder ces temps-là?
Voilà, donc on a aussi qu'est-ce que s'aimer, la tendresse de la tourterelle. On reviendra peut-être tout à l'heure aussi sur la philosophie donc de la poule au bain ou l'art de vivre intensément. Ça, c'est pas inintéressant parce que le côté carpe diem, on va y revenir aussi avec vous. Et là.
Un peu de gaieté à présent avec les magasins bio, un véritable phénomène qui a gagné la capitale depuis quelques années. Pourquoi un tel succès? Qui en sont les principaux acteurs?
CO2, mon amour.
Alors comment expliquez-vous cet engouement pour le bio?
Disons que nos légumes sont le fruit d'une agriculture 100% biologique. Hein. Là, ils sont bons, ils sont bio pour la santé. Pardon, c'est bio cool.
Sur France Inter.
Eh oui, parce que chez Albin Michel, qu'est-ce que je vois? Acheter bio, point d'interrogation, à qui faire confiance, écrit par Frédéric Danhé, qui s'intéresse au problème de l'alimentation depuis très très longtemps.
et qui peut très bien nous dire pourquoi manger une tartine de rillettes, et ben ça vous fiche un peu en l'air quand même à la fois des animaux et puis une partie quand même des paysages aussi, Frédéric.
Bah, oui et non, parce que manger de la viande sous n'importe quelle forme, c'est entretenir des troupeaux qui entretiennent des paysages, des prairies qui ouvrent les paysages, qui entretiennent des services écosystémiques, donc... Non, finalement, c'est pas si mal. Hein.
Oui, d'accord. Bon, bah, en tout cas, si on dit, par exemple, tout acheter en bio, ce sera sauver la planète.
Non, bah non. Mais non, c'est comme tout dogme. C'est pas parce que vous allez tout acheter bio que vous allez sauver la planète, que vous allez sauver votre santé. C'est pas parce que vous allez faire un régime ceci, cela, que vous allez boycotter les hypermarchés, que vous allez sauver la planète. C'est systémique. De toute façon, c'est tout le système qu'il faut bouger en même temps, mais on va y venir.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est à qui faire confiance dans votre titre ? Parce que là, à une époque, on ne se posait pas du tout la question. Et aujourd'hui, moi je reviens sur la phrase de Pierre Rabhi qui vous disait, il dit ça très très souvent en conférence, dans les interviews, lorsque vous passez à table, aujourd'hui c'est pas du tout bon appétit qu'il faut souhaiter, mais c'est bonne chance. Bon. Et donc voilà, alors, là aussi, il y a eu une bascule. Alors, il y a eu la vache folle, il y a eu des tas de choses. Mais aujourd'hui, c'est bien de plus en plus compliqué quand même d'avoir confiance.
Et ben, comme le dit Pierre Rabhi, presque à juste titre, aujourd'hui, il faut avoir un sacré capital culturel, voire financier, pour manger correctement, parce qu'il faut s'interroger sur le geste que l'on va faire, sur d'où ça vient, sur comment c'est composé. On paye aujourd'hui 40 ans d'abolition de nos choix en matière alimentaire. C'est-à-dire qu'on a confié à d'autres, à l'industrie agroalimentaire, à l'agriculture intensive, à la grande distribution, le soin de concocter ce que nous ingurgitons. Et on a oublié que la nourriture, c'est un plaisir, ça on l'oublie tout le temps, que la nourriture, c'est un lien social. On a oublié d'où ça vient, on a oublié qu'elle doit nous raconter une histoire. Elle nous la raconte plus. Et aujourd'hui, à l'occasion des crises sanitaires, notamment la vache folle, qui était un délabrement complet à partir de 1996, eh ben on a peur parce qu'on ne sait plus en qui avoir confiance dans cette boîte noire qui est devenue le système alimentaire. Et donc, on se réfugie vers des bâtons totems comme le bio, mais qui ne résolveront pas tout.
Alors, justement, maintenant, cliquons quand même davantage sur le bio. Les gens viennent très souvent au bio pour des problèmes, on va dire, de santé, peut-être pour eux et aussi pour la planète. Le cahier des charges, on espère qu'il est à peu près le même partout en France, en tout cas, c'est certain. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de pesticides, parfois vous pouvez avoir une trace de pesticides parce que ça vous avez un voisin effectivement qui arrose merveilleusement, très bien, mais est-ce suffisant ? Ça va plus loin quand même. Est-ce que ça, c'est de la philosophie du bio ou pas ?
Non. Le cahier des charges, c'est une version très réduite de la philosophie de la bio telle qu'elle avait été théorisée par Nature et Progrès au début des années 70. Le cahier des charges n'est pas suffisant. Ce qu'on appelle l'agroécologie qui démarre par la conservation des sols va beaucoup plus loin d'un point de vue agronomique que le bio. Et l'idéal, ce serait de trouver les deux.
C'est vous qui répondrez au courriel après, hein. C'est pas grave.
Oui, mais je suis habitué. Faut jamais oublier que se nourrir, c'est d'abord les paysans, et que les paysans, le geste agricole démarre par le sol. Et ça, on l'a un peu oublié. Bio ou pas, se nourrir, ça commence à correctement traiter ses sols. Et je suis désolé, pas tellement en France, pas tellement en Europe, et dans d'autres pays comme en Ukraine, allez vous balader dans des champs de patates ukrainiens qui font 40 km de long sur 10 km de large, qui sont labourés n'importe comment, il n'y a plus de vie dedans. Et dans la charte de la bio, il devrait y avoir des obligations de résultats en matière, par exemple, de taux de matière organique, de taux de lombrics, et donc sans doute de taux d'oiseaux qui vont manger les lombrics derrière, de taux de campagnols, et donc sans doute derrière de taux de renards qui vont manger les campagnols ou les busards. Non mais, blague dans le coin, il devrait y avoir des obligations de résultats en matière agronomique dans la charte de la bio. Le label AB tel qu'il est aujourd'hui, il devrait sérieusement s'amender. Parce que je suis inquiet pour son avenir.
Alors, est-ce qu'on est aussi inquiet globalement pour le bio avec les grandes surfaces qui ont quand même laissé faire tout à fait tranquillement, qui ont regardé l'affaire, qui ont vu des parts de marché qui commençaient à baisser et maintenant le bio pratiquement pour toutes les centrales, pour les centrales d'achat, il n'y en a que 4, face quand même à 470 000 exploitations aujourd'hui et 37 000 bio.
Donc qui fixe les prix, on a compris tout de suite.
Donc qui fixe tout de suite les prix, voilà. Donc quelle va être la limite de cette affaire-là ? Parce que maintenant, donc, l'affaire est quand même récupérée et on a des tas de maraîchers bio qui bossent évidemment toujours merveilleusement bien.
Mais c'est tout le paradoxe. Sans la grande distribution, le bio n'aurait jamais eu cette croissance exponentielle en 10 ans. C'est grâce à la grande distribution que les produits bio se sont vulgarisés, sont devenus accessibles à tous, au moins intellectuellement. Avant, c'était un marché de niche de bobos, pour faire court, qui allait dans les magasins spécialisés. Aujourd'hui, ceux et celles qui font le marché de la bio, ce sont les jeunes parents qui vont dans la grande distribution. Donc la grande distribution a laissé faire ce qui était susceptible de la menacer. Elle a laissé les paysans bio et les transformateurs bio fixer leurs prix. Mais maintenant que le marché augmente largement par rapport à l'offre, eh bien, on le voit déjà, il y a des transformateurs, il y a des producteurs bio qui créent une alerte en disant « Avant, on ne négociait pas les prix, maintenant, on est obligé de négocier les prix ». Comme avec les conventionnels. Donc la grande distribution est en train de phagocyter ce qui était censé philosophiquement la menacer
attention, danger.
Alors, les circuits courts, c'est intéressant parce que, en fait, ils ont été cassés avec l'avènement, on va dire, des supermarchés, pour faire très très simple. Donc après, on est à la sortie de la guerre, on veut de la facilité, tout ça, on comprend très bien. Mais aujourd'hui, ce que l'on sait un peu moins, c'est que l'origine du renouveau des circuits courts, c'est la pauvreté.
C'est la pauvreté. C'est une réponse à, on va dire, un effondrement financier, pour faire plaisir à mes voisins. Mais c'est une réponse à la misère. C'est une réponse à la misère d'urbains qui sont barrés en province et dans les zones rurales pour vivre sur leur potager. C'est une réponse à la misère d'agriculteurs qui, ne s'en sortant plus, ont décidé de faire un peu de maraîchage, faire un peu de poulet, faire un peu de cochon pour avoir un peu de trésorerie. Et les circuits courts sont revenus à la mode de fait à mesure que la crise s'installait, notamment dans le monde rural, à la fin des années 90, début des années 2000. Et c'est une réponse, effectivement, à la mauvaise alimentation. Pourquoi je fais très court? Ça a même été théorisé, en tout cas étudié par Yuna Chifolo, chercheuse à l'INRA de Montpellier. À partir du moment où vous avez un lien direct, charnel presque, visuel, entre les producteurs et les consommateurs, comme par hasard, vous avez 5 fois plus de producteurs qui changent d'itinéraire. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de la honte d'avoir menti aux consommateurs. Et ça, c'est étudié aussi dans les marchés locaux aux États-Unis. Il y a encore des marchés dans certaines villes américaines. Donc le circuit court sert surtout à ça, pour résumer, à redonner...
Non, mais ça redonne de la confiance.
Ça redonne de la confiance, oui. Premièrement. Et deuxièmement, ça réécrit une histoire, ça recrée un lien social. Et j'insiste là-dessus, manger, c'est aimer. Manger, c'est du lien social. Manger, c'est du plaisir. Mais avant tout, c'est du lien social depuis l'enfance. Et là, on recrée un lien social. Donc on reprend confiance.
Et donc du circuit court aussi quand même, parce que le cahier des charges, je le disais, pour le bio, qui viennent d'Ukraine, d'Espagne, etc., ce sera le même, mais les critères sociaux, eux, ne seront pas les mêmes.
Ah, les critères sociaux ne sont pas du tout les mêmes. Là, pour le coup, en Europe en général, en France, en Allemagne, en Autriche, en Europe du Nord, vous avez des agriculteurs correctement payés, qui travaillent globalement bien. Mais ce critère social, il est important. J'insiste là-dessus. Il ne peut pas y avoir de bio sans un paysan bien payé. Un paysan bien payé, il va travailler correctement. Donc un paysan qui commence à être mal payé parce que la grande distribution lui achète tout, c'est dangereux. Donc foncièrement, le bio, pour moi, il est antinomique avec un circuit long. Et même pour des raisons de propriété organoleptique des fruits et légumes. Encore une fois, c'est ce lien social qui est important. Il ne faut jamais oublier qu'un agriculteur, s'il n'est pas bien payé, s'il ne peut pas partir en vacances, il ne va pas travailler correctement. Donc oui, les circuits courts, ce qui ne veut pas dire qu'acheter en circuit court est forcément bon. Ça, c'est l'argument de la FNSEA. C'est français, donc c'est bon. Non, ça n'a rien à voir du tout. Le circuit court n'est pas foncièrement bon, mais il est foncièrement bon pour ce lien social qu'il recrée. Et puis surtout, parce que la valeur ajoutée est captée par le paysan, qui du coup, mieux payé, peut travailler mieux.
Frédéric Denoué, acheter bio, à qui faire confiance? C'est chez Albin Michel. Alors vous avez écouté Gauthier Chapelle et Pablo Servigne. Alors, il se trouve, Pablo Servigne, que vous êtes dans un coin, on va dire que là vous êtes, oui, vous êtes dans un coin, effectivement, dans la Drôme, vous avez ce qu'on appelle la bio-vallée. J'ai fait un sujet donc dessus avec... Oui, enfin non, ils sont pas tous bio, mais enfin, la fameuse bio-vallée, il y a 32% d'agriculteurs bio, c'est un des coins les plus forts de France. Ils sont à 17% en région de mémoire de Auvergne-Rhône-Alpes en bio. Et alors, dans votre ouvrage, vous misez donc bien sûr sur de la coopération, parce qu'on va quand même voir comment on essaye de sortir, hein, gentiment par le haut, et vous misez aussi sur des petites communautés. Donc, il faut, enfin, vous avez le premier truc, d'essayer de recréer de l'autonomie alimentaire.
Disons que l'échelle locale, à petite échelle, municipale, les quartiers, etc., c'est une échelle qui peut redonner facilement de la puissance d'action aux citoyens. Il y a un sentiment d'impuissance face à tout ce qui arrive, ou les gouvernements qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas l'ampleur des catastrophes. Et retrouver de la puissance, ça passe par là. Et c'est la base, quoi. Après, on peut monter en échelle, mais je trouve qu'il faut recréer quelque chose qui vient de la base, dans les territoires, quelque chose de bien adapté localement, voilà. Et ça, c'est de manière anticipée, hein, là, dans l'angle des catastrophes, dans l'angle d'un éventuel des ruptures d'approvisionnement, etc. C'est localement. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre voisin en cas de rupture d'approvisionnement, en cas de, je sais pas moi, de blackout, de voilà. Donc oui, forcément, le local.
Et l'entraide, vous le pointez bien aussi, c'est quelque chose qui est inné chez l'homme, mais qui va en fait émerger, Gauthier Chapelle, en fait, quand l'environnement est tout à fait hostile.
Oui, en fait, ça, c'est une des choses qu'on a écrit dans l'entraide, l'autre loi de la jungle, c'est qu'effectivement, on constate à travers toute l'histoire du vivant, toutes les espèces, y compris la nôtre, que plus les pénuries augmentent, plus le réflexe de coopération augmente aussi. Et ça peut paraître bizarre dans notre culture de la compétition, mais le côté... L'explication est simple, c'est que faire de la compétition dans un monde d'abondance, c'est moins risqué que faire de la compétition dans un monde de pénurie. Quand on est en pénurie, la compétition peut être mortelle quand on perd, alors que quand on est dans l'abondance que nous avons, nous, ici, avec nos 450 esclaves énergétiques chacun, eh bien, on n'a pas besoin de son voisin, en fait. Quand on va rentrer dans ces ruptures, à ce moment-là, le voisinage et l'entraide va être clé, mais on est très doué pour ça, en fait. On connaît ça, on le pratique tous au jour le jour. On nous a juste dit que c'était bisounours, mais on est très bon pour le faire.
Alors, les 400 esclaves énergétiques, hein, donc c'est ça, c'est ce qu'a théorisé donc, Jean-Marc Jancovici, c'est la rupture, on va dire thermo-industrielle, hein, qui, lorsqu'on n'aura plus forcément de charbon, de pétrole, de gaz, c'est pas exactement pour tout de suite quand même, hein, mais
qu'il n'y en ait plus, ou bien qu'on décide de ne plus l'utiliser. Voilà. C'est quand même ce que le GIEC et les jeunes dans la rue réclament.
De laisser le pétrole là où il est.
Voilà, qu'on sorte des combustibles fossiles le plus vite possible, et ça va avoir le même résultat, puisque tout dépend quasiment dans cette société du pétrole. Plus de pétrole, il va falloir tout réinventer, y compris l'agriculture.
Alors, avant deux autres oiseaux qui vont chanter, moi j'aimerais en avoir un autre, s'il vous plaît. Donc, Élise Rousseau, une petite philosophie des oiseaux. Allez, on reprend. Qu'est-ce qu'on va se faire en bas? Vivre intensément, là, tenez, oui, philosophie de la poule au bain, ou l'art de vivre intensément, qu'est-ce donc ?
Alors, la prochaine fois que vous observez ou une poule, ou ne serait-ce qu'un moineau, en fait, qui prend un bain de poussière, regardez à quel point, en fait, il est heureux, et il est content, et il émet du plaisir, en fait, à prendre son bain de poussière, et pensez à vous, le matin, quand vous prenez votre douche, que vous êtes pressé, que vous êtes en retard pour aller au boulot. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est l'idée que les animaux, les oiseaux, en fait, sont vraiment intensément dans ce qu'ils font. Ils sont dans le carpe diem, en fait, naturellement, ils sont dans le plaisir, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire. Alors que nous, êtres humains, on passe notre temps à se presser, speeder, à pop. C'est quand même assez rare qu'on prenne vraiment une telle délectation à se laver. En fait, souvent, c'est un peu vite fait. Mmh. Et du coup, bah, c'est vraiment ce côté de vivre intensément que nous enseignent, en fait, les oiseaux et les animaux en règle générale. C'est-à-dire que ils sont pas à ruminer le passé, ils sont pas à s'inquiéter pour le futur, ils sont vraiment dans l'instant présent. Et en soi, ils rejoignent finalement toutes les philosophies anciennes et ce qu'on nous dit depuis toujours, c'est-à-dire le carpe diem ou aussi l'instant présent des bouddhistes. Et en soi, finalement, ils ont cette sagesse-là quoi, que nous, on a l'air d'avoir perdu.
Ils ne le savent pas, ils sont programmés pour ça. Ils ne savent même pas qu'ils ont été nommés par l'homme. Donc,
voilà, ils sont juste bien. Et donc, si nous, on arrivait à ne serait-ce que prendre un bon bain ou une bonne douche avec autant de plaisir qu'un oiseau, ben ça serait, on serait peut-être un peu plus heureux au quotidien.
C'est formidable, on a besoin d'innocence, ben justement, tiens.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours, ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas. Chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes, elle ne te quitte pas. Toi tu voudrais tailler la plaine en apache, te libérer d'un cri de toutes tes attaches, pour aller où, visage pâle, dans une tour. Elle te prend le vitesse. Pour aller où, tu ne sais plus. Changer de tête, d'air, de nom et de rue. Oui, t'aimerais te perdre au milieu des fleurs. Débarrasser les pierres au fond de ton cœur. Ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel elle te renverse, dans chacun de tes gestes, tu voudrais tant de faire, mais ça ne marche pas, elle parle dans tes silences, comme le secret de ton enfance, et toutes ces choses-là, qui ne te quittent pas. Te perdre. chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, elle ne te laisse pas, elle ne te quitte pas. Sous chaque pluie elle te renverse, sous chaque ciel elle te traverse, elle ne te quitte pas.
Eh bien, ils ont bien fait de revenir. Donc c'était Les Innocents, c'était Apache sur France Inter dans CO2 Mon Amour.
Trop de déchets sur Terre ? Il est temps de changer d'air. Des vaisseaux spatiaux VNL partent chaque jour. Nous veillerons à ce que tout soit propre à votre retour.
CO2 Mon Amour.
Parce que VNL fait de l'espace un lieu de plaisir sans limite.
Sur France Inter.
Youpi ! Et voilà. Et donc, une autre fin du monde est possible. Je tiens à le signaler, n'est pas vendu avec une boîte d'antidépresseurs. Non, hein, tout va bien parce qu'il y a quand même des solutions. Simplement, ce livre, c'est dire, voilà, on a envie de regarder la réalité en face. Vous l'avez très bien rappelé. Aujourd'hui, la science est incapable de dire dans quelles conditions ça va s'effondrer ou quoi, comment. Il y a quand même des zones de d'incertitude. Et puisque très bien dit Frédéric Danhé, c'est que si par hasard, on n'avait pas que croissance, PIB, tu seras un trader, mon fils. Si ça devait changer, ça pourrait quand même limiter la casse, l'affaire. Là. Je sens une espèce d'interrogation muette là dans Gauthier, Chapelle.
Mais en fait, moi, je dirais justement, ce livre, il parle, bien que ça soit une autre fin du monde qui est possible, nous, on y parle tout le temps d'une autre fin d'un monde. Et en fait, c'est pour moi, ce livre, pour nous, c'est ce livre est l'antidépresseur du précédent. Si éventuellement on a mal pris le premier,
mais c'était comme pas carré, quoi. C'était pareil.
En partie. Et d'ailleurs, le sous-titre, c'est vivre et pas survivre à l'effondrement.
Voilà.
Et donc, ça veut dire qu'à côté des sentiments, des émotions difficiles, la peur, la colère, la tristesse, il y a aussi vraiment la joie qui est cultivée. Et si nous, on n'arrivait pas à cultiver cette joie, qui se fait d'ailleurs notamment en allant voir régulièrement les oiseaux, personnellement, si on ne cultivait pas cette joie, eh bien, on ne pourrait pas continuer à avancer dans la posture de lucidité que demande cette question de l'effondrement. Et d'ailleurs, nous, on a une expression qu'on a utilisée en fin de livre, c'est qu'on ne parle pas d'apocalypse, on parle d'apicolapse.
Oui, bah oui, ça fait un peu apicolapse. Non, c'est
apicolapse.
Apicolapse, oui, Frédéric.
Non, c'était pas picole.
Non, c'est pas picole. C'était apicolapse, bien sûr. Il y a une très jolie citation d'Henri Lacordaire, Pablo Servigne, dans votre ouvrage, quand on le débute, c'est « Il y a des choses qu'on voit comme il faut, mais qu'avec des yeux qui ont pleuré. » Ça veut dire qu'il faut peut-être d'abord sortir du déni, accepter une réalité qui n'est pas forcément très joyeuse. C'est-à-dire, en fait, donner un coup de pied au fond de la piscine pour pouvoir rebondir ?
Aller au fond pour pouvoir rebondir, exactement. On a remarqué que, on a fait beaucoup d'ateliers avec Gauthier, de rencontres avec le public, d'ateliers qu'on appelle éco-psychologie, mais il y a d'autres noms, où on peut déposer un peu toutes ces émotions, la rage, la colère, la tristesse, le désespoir, la honte, la culpabilité, et ça fait du bien, en fait. Et dans notre société, c'est un peu honteux de sortir de la colère, de sortir la tristesse. On a envie de joie, d'optimisme. Moi, j'ai écrit des papiers pour des journaux. Combien de fois on m'a pas dit, mais c'est trop noir, il faut de l'optimisme, il faut des solutions. Mais non.
Il faut être ludique. Enfin, ludique, c'est aussi un mot très important. Il faut que tout soit ludique.
Mais je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut, bien dit, on peut déposer ça. Allez. Il faut être écouté. Et quand vous avez fait l'expérience de déposer toute cette rage, tout ce désespoir, mais c'est normal. On abat des forêts, des oiseaux, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être désespéré. Parce que on aime, et la tristesse, c'est la marque du lien d'amour qui nous lie à tous ces oiseaux, ces arbres. C'est normal qu'on soit triste. Et pleurer un bon coup, après il y a de la joie qui vient, il y a de l'enthousiasme, il y a peut-être de l'excitation, etc. Et franchement, ça bouge. En ce moment, ça bouge de colère, on voit dans la rue. La rage, c'est aussi quelque chose, un élan vital. Il y a l'énergie du désespoir chez ces jeunes, chez la jeune Suédoise Greta Thunberg. Il y a de l'énergie, de la joie, il y a de l'excitation. Et je pense qu'on peut rester lucide en regardant les catastrophes droit dans les yeux et se remettre en action. C'est ce qu'on a voulu dire dans ce livre.
Je me retourne un peu vers vous, vers le public. Vous ressentez... Non, oui. Bon, vous êtes assez d'accord. OK. Donc c'était pour sentir un petit peu les choses. Ça n'a pas valeur de sondage, hein, rassurez-vous. Alors, sur quoi vous misez ? Parce que j'ai vu aussi que vous étiez parti sur la spiritualité non religieuse. Vous étiez aussi parti sur voir ce que faisaient des peuples premiers, des peuples comme les Kogi, etc. C'est pas donné à tout le monde, hein, quand même. Hein, tout ça. Là, là, on est déjà sur un niveau de conscience qui est quand même assez, assez, assez solide. Mais,
Oui, mais ça part de l'idée que l'effondrement, c'est pas juste une remise en question de ce système consumériste. Ça va même encore plus loin que ça. C'est même notre rapport au monde et notre rapport à la nature et notre rapport au sacré qui a tout ça à revoir. Notre rapport aussi à l'équilibre entre le masculin et le féminin. On a parlé pas mal d'écoféminisme dans le bouquin. Il y a tout ça que l'effondrement va nous donner l'occasion de remettre en question pour réinventer une autre façon de vivre, une autre façon d'être et une autre façon de concevoir notre rapport au monde. Alors c'est peut-être pas évident, mais ça vaut la peine d'y plonger. Et nous, c'est ce qui nous permet de continuer à avancer et de vivre cet effondrement et pas de se sentir justement complètement aplati par ses perspectives, mais de sentir et de savoir qu'il va y avoir des tas de choses qui vont changer, je dirais, dans le mieux et qui vont nous faire du bien à nous et au reste de la planète.
Frédéric, on voit bien que parfois, effectivement, la pédagogie du chaos, ça fonctionne pas. Bon, ce qui va fonctionner, ça peut être le régalien, c'est-à-dire la carotte et le bâton. Ce qui va fonctionner, c'est les femmes, beaucoup portées par les femmes, santé et environnement. C'est aussi parfois des signaux pris. Puis aussi, ce sont des, c'est le mimétisme. Je fais parce que tu fais, parce que nous faisons. Et ça fait drôlement du bien. Et dans votre ouvrage, vous avez aussi des dons achetés bio à qui faire confiance. Vous avez rencontré donc beaucoup d'agriculteurs, parce que vous allez plus loin que le bio. Et il y a des choses très étonnantes. Il y avait des gens très très conventionnels et puis après qui bougent.
Mais oui, la France bouge. Ça faut le dire. On peut s'inspirer d'une espèce d'auto-organisation qu'on voit partout en France, en tout cas à York, dans les grandes villes, et que Paris, d'ailleurs, ça permet de voir le fossé qui est entre Paris, les discours intellectualisants qu'il y a à Paris, et la réalité du terrain. Je prends qu'un exemple, c'est Benoît Collard, qui est agriculteur conventionnel à Somme-Tourbe, près du moulin de Valmy, près de Reims, c'est-à-dire, qui, parce qu'il faisait venir les écoles dans lesquelles ses enfants se trouvaient lors de visites pédagogiques, et a dû répondre à des questions très simples des enfants et des instituteurs. Et du coup, ça lui a mis un peu la honte. On peut considérer les choses comme ça. Et il a changé ses itinéraires. Il en est venu à la conservation des sols. Il en est venu à moins pulvériser. De fil en aiguille, il est devenu bio. Alors maintenant, il ne l'est plus pour des raisons complexes. Mais voilà un agriculteur qui est devenu, parce que c'était un homme important au sein de la Chambre d'agriculture et du syndicat majoritaire, qu'il est devenu exemplaire auprès d'autres. Tout cela a diffusé au sein d'une association qui s'appelle Symbiose, qui promeut aujourd'hui une agriculture qui fait avec la biodiversité. Et de fil en aiguille, le lien s'est renforcé avec les acheteurs, au point de créer un magasin de producteurs qui s'appelle Sacré Fermier, qu'il a implanté dans une zone industrielle en face d'un supermarché. Et ça marche, et il a créé des emplois. Là, on n'est que sur le local, on est dans le bio, ou pas tout à fait, voire plus loin. Eh ben, moi, ça me réjouit, ça. Face à, effectivement, une idée d'effondrement, il y a une auto-organisation qui, dès lors que on fout la paix aux agriculteurs, fonctionne.
Dites-moi, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, est-ce que vous n'avez pas peur, lorsque l'on parle d'effondrement, quand on n'a pas forcément de recul, quand on parle de collapsologie? Bien placé au Scrabble, ça doit être bien collapsologie, je pense. Enfin bon, ça c'est autre chose. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait ce côté carpe diem, jouissons sans entrave, après moi le déluge?
Alors moi, j'ai pas peur, mais je comprends qu'on ait peur de ça, et ça existe. Il y a ce côté, au moins, à quoi bon, c'est la fin du monde, et puis finissons notre vie au bistrot, et on s'en fout. Et en fait, ça c'est très fréquent, c'est ce qu'on a appelé dans le premier livre les aquabonistes. Et puis il y a les savapétistes, ceux qui se disent de toute façon ça va péter tout ce système, ça, c'est vivement que ça finisse et qu'on en finisse. Il faut aider le capitalisme à s'effondrer, etc.
À crever complètement, oui.
Et puis il y a d'autres postures. Vous parliez de la peur, vous mettiez l'accent sur la peur. En fait, il y en a d'autres. Il y a donc on a vu savapétiste, c'est plutôt la colère. Après la communiste, plutôt la tristesse. Et c'est insister surtout qu'il y a une psychodiversité. Il y a beaucoup, il n'y a pas que la peur. Il y a différentes manières, différentes postures. On a voulu à chaque fois, depuis le début, avec la collapsologie, éviter les écueils, aplatir l'horizon, je l'ai dit tout à l'heure, rester stagné dans la peur. Et à chaque fois, on peut déployer un imaginaire, déployer d'autres émotions, l'entraide, etc. Donc, on ouvre des possibles. Et c'est tout un travail de longue haleine. de ne pas retomber dans les clichés.
Je ne connais pas votre vie. Vous avez des enfants ou vous n'en avez pas? Parce qu'avec
deux
tout
jeunes
ça...
enfants.
Ouais. Ah oui, d'accord. Bah, donc il y a de l'espoir chez vous.
Gauthier aussi.
Gauthier aussi.
Oui, moi j'en ai refait un après avoir écrit le bouquin.
Ah, oui, parce que vous n'étiez pas bien. Vous êtes...
non, ah non, non, c'est non, le contraire.
C'est le contraire,
non,
parce que ça a été mieux.
C'est ouais. Pas très Yves Cochet, ça quand même.
Hein. Ça, non, c'est pas très Yves Cochet. Ça, voilà, effectivement, là, troisième enfant, terminé, hein, les subventions et tout ça. Élise Rousseau, juste comme ça, un oiseau, sans reprendre la petite philosophie des oiseaux, on termine avec un oiseau. Quel est celui que vous aimez? Alors, c'est une question bateau, mais est-ce qu'il n'y a pas un oiseau qui vous fascine le plus?
Moi, c'est la chevêche d'Athéna, c'est la chouette de la sagesse. Oui. Et c'est une petite chouette très mignonne, mais qui est très teigneuse et qui ne se laisse pas faire. Peut-être que dans ces temps un peu troublés, on aurait besoin d'un peu de sa hargne pour se défendre contre plus fort que nous.
Et comme c'est la période des chouettes, là, en ce moment, oui. Là, ça y va. Donc, c'est la grande période des amours donc, chez les chouettes. Et qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter alors aussi donc, à tous les deux donc, maintenant, je ne parle pas du succès du bouquin, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir émerger? Parce que là, c'est quand même des signaux très intéressants donc, avec ce qui se passe avec les jeunes, par exemple.
Du coup, oui, ben, ce qui est bien, c'est que ce qu'on voudrait bien voir émerger est en train d'émerger. Donc, c'est un peu de ce passage à la mobilisation générale et avec des demandes qui sont beaucoup plus radicales. Et ça fait plaisir, en fait, de se faire rattraper par la radicalité de ce que demandent les jeunes. Greta Thunberg, chaque discours qu'elle fait, moi, à chaque fois, je me dis, bon, ben, ça va, c'est bon, c'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à accompagner et en profiter.
Et pour vous, Pablo Servigne?
Mais moi, j'aime bien, je suis ravi de voir que beaucoup de gens changent de vie. Souvent, on remarque, je vois, il y a des témoignages d'urbains qui partent à la campagne, de gens qui lâchent leur bullshit job, leur job de merde, et qui font quelque chose de vraiment qui a du sens. Et ce qui est assez intéressant avec cette radicalité des effondrements, des catastrophes, c'est comme quand vous avez un accident grave ou une maladie grave, à un moment, vous vivez le reste de votre vie. Vous allez à l'essentiel. Et on remarque, et cet effet-là, il est vraiment très intéressant.
Faire la différence entre l'urgence et l'essentiel.
Exactement.
Écoutez, un grand merci. Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde, donc, est possible, c'est aux éditions du Seuil. Frédéric Denry, acheté bio, à quoi faire confiance, ça c'est chez Albin Michel. Et puis nous avons cette petite philosophie des oiseaux, on a picoré dedans aux éditions de La Martinière. Merci à Camille Blanès, à Jérôme Boulet, donc, qui réalisait cette émission, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2, Mon Amour, Sandrine Malon, Florent Layani, Stéphane Beaufis à la technique aujourd'hui. Et puis donc podcast, vous en avez l'habitude. Et dans quelques instants, ce sera la librairie francophone Emmanuel Quirard. Mais comme on est au Salon du Livre quand même, 19h54, demain ce sera quoi? Ce sera les petits bateaux.